Vous êtes sur RTL.
Et à la une, le retour des panneaux 90. C'est une info RTL. La Haute-Marne sera le premier département aujourd'hui à dire adieu aux 80 km/h. À suivre aussi Nordal-le-Landais, de nouveau suspect. Casino dans le rouge et puis le casse-tête de l'organisation des élections européennes dans les petites communes. Deux fois le temps d'ici 5h30.
De très belles éclaircies toute la journée à Cambrai dans le Nord et 23 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
C'est donc une info RTL. Un premier département va voter le retour aux 90 km/h. La Haute-Marne tranchera aujourd'hui, terminer les 80 sur certains tronçons. La semaine passée, Édouard Philippe avait dit oui à un assouplissement de la mesure. Le Premier ministre propose au département de choisir, donc la Haute-Marne s'engouffre dans la brèche. Son président Nicolas Lacroix sera notre invité à 6h15. Pour l'instant, sa décision est saluée sur place, Arnaud Touche.
Sur cette route fréquentée à travers champs, les arbres sont rares et l'horizon est à perte de vue. La D65, Stéphane, 45 ans, l'emprunte très souvent.
Je la connais plutôt bien, je fais à peu près 50 000 km par an.
Depuis le passage aux 80 km/h, il trouve le temps plus long. Alors un retour aux 90 km/h ici, c'est
une très bonne nouvelle.
Pour autant, ce choix doit être raisonné.
Je ne suis pas pour non plus que toutes les routes reviennent à 90, parce qu'il y a des routes qui ont une nécessité, qui ont besoin d'être à 80. Des routes accidentogènes, ça ne me pose aucun problème. Par contre, un axe comme celui auquel on est en train de parler, 90, ça me paraît du très bon sens.
Cette départementale, Céline l'emprunte.
Tous les jours pour aller au travail.
Elle n'a jamais été pour les 80 km/h.
J'entends bien la baisse des accidents de la route, mais moi j'avais une voiture ancienne, donc j'ai dû changer aussi, mais voilà, les moteurs, l'usure et autres.
Cette double voie traverse le petit village de Bicon et ses 400 âmes. Franck Duhoux en est le maire et il se félicite de ce changement à venir.
Parce que le département est responsable, à lui de gérer les routes départementales, ainsi que la limitation de vitesse.
La départementale 65 ne devrait pas être la seule à retrouver ses 90 km/h. Une dizaine d'autres pourraient voir les anciens panneaux revenir sur le bord de la route.
Arnaud Touche pour RTL en Haute-Marne. La Haute-Marne, donc, dont le président du conseil départemental, Nicolas Lacroix, sera notre invité tout à l'heure à 6h15 pour nous expliquer sa décision. En attendant, vous avez la parole. C'est vrai qu'on a de nombreuses fois évoqué dans cette émission le sujet des 80 km/h. Cette fois, c'est extrêmement concret. Ça y est, un département revient à 90 km/h sur certains tronçons. Comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites enfin ce matin, ou est-ce que vous vous dites attention, on va un petit peu trop vite? La Ligue contre la violence routière, par exemple, estime que 7 tronçons du département totalisent 51% des accidents mortels. Est-ce que le département va un petit peu vite en besogne? On vous pose la question ce matin, on en débat tous ensemble au 32-10. À la une également, Nordal-le-Landais, à nouveau suspect ce matin. Est-il derrière le décès de Thomas Rochekolb? Ce jeune homme a été retrouvé mort en 2015 après une soirée en discothèque en Savoie. Eh bien, son père vient de découvrir une photo de l'Hollandais dans cette même boîte de nuit 3 ans auparavant. Francis Rochekolb s'est confié à RTL.
La photo montre bien que l'Hollandais fréquentait cette discothèque. Est-ce que le soir du décès de Thomas il y était? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Hollandais fréquentait cette discothèque.
Pour vous, 3 ans après cette photo, Nordal-le-Landais aurait pu aussi se retrouver dans cette boîte de nuit?
Oui, on peut tout à fait s'imaginer la chose. On peut supposer toutes les hypothèses.
Pour vous, c'est une piste sérieuse?
En tout cas, elle doit être creusée et fermer la porte si elle doit être fermée. Mais en tout cas, il faut étudier la question.
Et ça vous donne de nouveau un espoir de savoir ce qui s'est passé au niveau de la mort de votre fils?
Oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à écouter les enquêteurs, mon fils était ivre-mort sur la voie publique et il est mort en ayant franchi et rentré dans des propriétés. C'est d'une incohérence absolue, quoi.
Des propos recueillis par Serge Puyot pour RTL. Les gendarmes travaillent donc sur cette piste, mais ils restent prudents pour l'instant. Casino dans le rouge et ses enseignes Monoprix, Franprix, Leader Price, Naturalia ou Cdiscount dans l'inquiétude. La maison mère Rally vient d'être placée en procédure de sauvegarde. 2 administrateurs judiciaires sont nommés et il était temps, Éric Vanier.
Depuis plusieurs semaines, Casino et sa maison mère Rally sont en effet la cible des spéculateurs. L'action est attaquée car les analystes financiers et les agences de notation estiment que le groupe n'a plus les moyens de rembourser sa dette qui frôle les 3 milliards, soit à peu près ce que vaut la société en bourse. Pour ne pas plomber davantage sa cotation, Rally a donc décidé de se mettre à l'abri sous une procédure de sauvegarde, ce qui implique le gel de sa dette pendant au moins 6 mois et la nomination d'un administrateur qui va élaborer avec les dirigeants de la société un plan de remboursement versement étalé dans le temps est donc beaucoup plus supportable. Casino ne manque pas d'atouts, ses supérettes et ses supermarchés marchent plutôt bien. En revanche, c'est plus difficile pour ces hypermarchés géants, dont la marque d'ailleurs a commencé à se séparer. Et Casino peut s'appuyer pour rebondir sur Amazon, avec qui a été noué un partenariat prometteur.
Éric Vanier pour RTL. Un geste envers les ex-Ascoval. Leur repreneur viendra sur le site de Saint-Saulve dans le Nord en fin de semaine prochaine. British Steel est en faillite au Royaume-Uni. Bercy assure toutefois que cette liquidation judiciaire ne menace pas la reprise de l'acierie. En revanche, angoisse aussi des ouvriers de British Steel à Hayange en Moselle, où la CFDT s'inquiète car ce site emploie deux fois plus de personnes que celui de Saint-Saulve. J-2 avant les élections européennes et le Rassemblement national est toujours en tête d'après notre dernier sondage Harris Interactive pour RTL, LCI et Le Figaro. 24,5% des intentions de vote contre 22,5% pour les marcheurs, 12% pour les républicains. À gauche, près de 30% se dispersent entre Insoumis à 9,5%, Écolo à 7,5%, PS Place Publique à 5%, mais aussi communistes et ammonistes. Multitude de listes à gauche, multitude de listes tout court. 34 au total, autant dire que c'est un casse-tête pour l'organisation du scrutin dans les petites communes, qui plus est un jour de fête des maires. Écoutez par exemple la maire adjointe de Wittelsheim en Alsace pour RTL.
C'est vrai que c'est un casse-tête au niveau de l'organisation matérielle. Les 34 bulletins de vote sont de format A4 et il va falloir les positionner sur une table. Donc, on va avoir des tables à rallonge. La loi également nous demande que chaque pile soit de la même hauteur pour ne pas privilégier un parti par rapport à l'autre. Sauf que certains partis ne nous ont pas fourni du tout de bulletins. D'autres partis ont livré à minima juste quelques centaines de feuilles. Donc, ça va poser problème, effectivement.
Parce que vous avez combien de votants ici ?
Plus de 8500.
Et par rapport à la fête des maires, c'est plus difficile pour tenir les bureaux de vote.
Et oui, donc là c'était particulièrement difficile. Il nous fallait 40 assesseurs. Ce sont les européennes qui mobilisent moins, mais aussi la fête des maires. La fête des maires, on a envie d'être en famille, autour de la table. Et c'est vrai que c'est souvent l'excuse qui a été, la bonne excuse qui a été évoquée. C'est la fête des maires, on ne peut pas venir. Et nous avons comblé avec du personnel communal.
Des propos recueillis par Yannick Holland pour RTL. Hier, ce sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ont voté. Aux Pays-Bas, victoire surprise des travaillistes. Les populistes sont bien plus bas que prévu. En revanche, au Royaume-Uni, le Brexit Party est largement favori, mais les résultats ne seront connus que dimanche après tous les votes européens. Aujourd'hui, c'est l'Irlande qui est appelée aux urnes. L'Irlande qui craint le Brexit, justement, et le potentiel retour d'une frontière entre Nord et Sud. 30 000 personnes vivent d'un côté et travaillent de l'autre, par exemple. Dans ce contexte, dernier épisode ce matin de notre série à cette heure-ci, sur les gagnants et les perdants de l'Europe. Le sport y gagne-t-il vraiment ? Le dopage gangrène nos disciplines depuis des décennies. Qu'en est-il justement de la lutte contre cette triche dans l'Union ? Isabelle Langer, certaines affaires montrent qu'une harmonisation peut exister entre les 27.
Juin 2016, les douaniers de Roissy interceptent un colis contenant des produits dopants. Une saisie qui va permettre quelques mois plus tard de démanteler toute une organisation criminelle en Espagne qui élaborait et vendait des contrefaçons de médicaments et d'anabolisants, vous savez, qui sont souvent utilisés dans les salles de sport. C'est le travail commun notamment des gendarmes français de l'OCLAELPS, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, et de la police espagnole qui a permis ce démantèlement. L'OCLAELPS travaille souvent en collaboration avec ses collègues européens. Les gouvernements de l'Union travaillent également de concert sur d'autres dossiers. Ainsi, la France, en ce moment, est à la manœuvre pour qu'une norme européenne soit mise en place sur les compléments alimentaires, comme l'explique Yves Ranson au ministère des Sports.
Eh bien, on estime, selon les études, qu'il y a environ 15 à 25% des compléments alimentaires qui contiennent des produits dopants. La norme, l'intérêt serait d'éviter que les sportifs soient contrôlés positifs après avoir consommé des compléments alimentaires par défaut d'information. Donc l'objectif de la norme, c'est d'abord de donner une information aux sportifs sur le fait qu'elles contiennent ou pas des produits dopants. Et l'autre intérêt, c'est vis-à-vis des fabricants, de leur donner des bonnes pratiques de production pour éviter les risques de contamination sur les chaînes de production.
Isabelle, il semble toutefois compliqué d'arriver à une uniformisation en matière de lutte contre le dopage en Europe.
Et pour cause, chaque pays possède une prévention et une législation qui lui sont propres. Et puis surtout, depuis 1999, c'est l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, qui régente tout. La prise de conscience internationale est arrivée avec l'affaire Festina sur le Tour de France en 1998. Les instances internationales ont alors compris qu'il fallait harmoniser cette lutte. Vous pouvez comprendre pourquoi, aujourd'hui, une agence européenne n'a pas lieu d'être et serait plus un frein qu'autre chose.
Isabelle Langer pour RTL. Il n'y a pas d'affaire. L'avocat l'avocat de Nasser Al-Khelaïfi, contre-attaque. Maître Spinner était l'invité de RTL hier soir. Son client, le président du PSG, est mis en examen. Il est soupçonné d'avoir acheté pour le Qatar le mondial d'athlétisme 2019. L'épilogue de la saison de Ligue 1, c'est ce soir. Un seul enjeu désormais, la lutte pour le maintien. Qui sera 19e et relégué? Qui sera 18e et barragiste? Parmi les équipes menacées, Monaco qui joue à Nice, Amiens qui accueille Guingamp, Caen qui reçoit Bordeaux et Dijon qui accueille Toulouse. Coup d'envoi de ce multiplex à 21h05, soir de Ligue 1, dès 20h sur RTL. Et puis il y a un pré-barrage d'accession à la Ligue 1 ce soir. 3 accueille le club favori de Anthony, Lens, à 18h.
Exactement.
Le vainqueur jouera le 18e de Ligue 1. Est-ce qu'il fera beau pour 3 Lens
normalement.